l'Église orthodoxe aujourd'hui. Bonjour à tous. D'origine française, le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, agrégé de lettres classiques, est doyen de France de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, et recteur de la paroisse francophone Saint-Germain et Saint-Cloud de Louvciennes. En dialogue avec le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, je vous propose un regard chrétien orthodoxe sur mariage et sexualité à partir de la rencontre avec Jésus d'une femme samaritaine relatée dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4. C'est au puits de Jacob qu'elle a reçu de lui la promesse de l'eau vive. Mais quand elle a demandé cette eau, Jésus lui a dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » C'est alors que la Samaritaine a reconnu en Jésus un prophète, a appris qu'il est le Christ, et, par sa grâce, elle a changé de vie.
La norme, en fait, de la vie, la loi nouvelle, en quelque sorte, qu'apporte le Christ dans son œuvre, par sa Pâque et au-delà de sa Pâque, la loi nouvelle, c'est la loi de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que c'est la vie de l'être humain suivant un mode charismatique, et non plus sur un mode moral ou légal ou religieux au sens étroit. Et donc c'est ce mode de vie charismatique ou pneumatologique, c'est ce mode de vie-là nouveau que le Christ donne en fait. Le mystère de l'Église est cet espèce d'espace divino-humain qu'on appelle le corps du Christ et au sein duquel l'être humain, par la foi, par la conversion, par l'organisation de sa vie conformément à la volonté de Dieu, a accès justement à cette vie charismatique qui constitue les arts du royaume, qu'on appelle le royaume. Donc l'Église n'est pas le royaume, il faut quand même faire attention, mais l'Église est la porte du royaume, est le sacrement du royaume, et donc le sacrement de cette vie charismatique. D'après ce que je comprends, c'est ça qui est le fil d'or, la grille, si je peux dire, d'interprétation de ce que le Christ dit à cette femme, avec beaucoup de douceur, et sans jugement. Il lui dit, le monsieur avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu as eu tant de maris, et celui actuellement, c'est toujours pas ton mari. Mais il ne la juge pas. C'est assez remarquable d'ailleurs qu'il n'y a pas de jugement de valeur, ni pas c'est bien ou c'est mal, etc. Il lui dit qu'il a vu ça. Et je pense que c'est assez important pour nous, si on veut rester, par exemple, dans ce thème que vous proposez, c'est-à-dire le thème de la place de la sexualité dans la vie sainte, qui est la vie chrétienne, la vie de baptisé. Je pense qu'il faut savoir que dans notre vie, pas seulement affective, mais conjugale, la sexualité, en général, que ce soit pour les moines ou pour les gens mariés, notre sexualité, elle est devant le regard de Dieu. Ça, c'est une erreur qui vient de la chute. Après la chute du paradis, les hommes, vous savez très bien, ils ont mis des feuilles comme ça, ils commençaient à se cacher de Dieu. C'est une illusion diabolique de penser qu'on peut se cacher de Dieu, ça va se couvrir, et couvrir son sexe en particulier, comme si Dieu ne voyait pas notre sexe, et comme s'il ne voyait pas notre sexualité profonde, toute l'organisation de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu juge, mais ça veut dire simplement que Dieu voit tout. Comme dit le patriarche Paul de Serbie, qui est un grand saint de notre temps d'ailleurs, que personnellement j'admire beaucoup, il a écrit un livre qui s'appelle comme ça, Dieu voit tout. Alors, il ne faut pas que tu croies que ta vie affective, que ta vie sexuelle échappe au regard de Dieu. Il y a un événement assez important, assez libérateur, je dirais, c'est la déprivatisation de la vie affective et de la vie sexuelle en particulier. Il faut déprivatiser, parce qu'en déprivatisant, on entre dans le réel, qui est que Dieu voit tout, que notre vie est, que nous voulions ou pas, notre vie est sous le regard de Dieu. Mais ce regard de Dieu est un regard bienveillant. Je sais pas, moi j'ai l'impression que le Christ a parlé à cette femme, il a parlé avec une certaine douceur, avec peut-être un sourire, comme nous disent nos pères spirituels, qui sont toujours souriants, je pense à Père Sofiane, à Père Théophile de Simbata, les pères spirituels roumains, ils nous disent des choses comme ça très objectives, mais toujours avec un sourire bienveillant, un sourire paternel, avec beaucoup d'amour. Je pense qu'il y avait dans le ton que le Christ a pris pour parler à cette femme, il y avait un ton plein d'amour, plein d'humour aussi un peu. Humour et amour. J'imagine le Christ assez souriant comme un père, vous voyez, comme une image paternelle, très douce mais très juste, très objective. Le monsieur avec qui tu vis n'est pas ton mari.
Père Marc-Antoine Costa de Beauregard, vous connaissez bien la culture occidentale et la théologie occidentale. On se rappelle que déjà chez Augustin, on retrouve une conception de la sexualité comme quelque chose de mauvais en soi. Lui, il disait par exemple que le mariage, c'est une moindre mal par rapport à la fornication. Est-ce que cette conception négative par rapport au corps, par rapport à la sexualité en Occident, n'a pas engendré plus tard une réaction dans une conception libertine qui veut dire que la sexualité, en effet, est bonne en soi, mais toujours en soi? Quelle est la vision de la théologie orthodoxe sur ce sujet?
C'est une question assez complexe. Il me semble quand même que, d'une part, effectivement, il y a dans l'héritage chrétien, il y a ce type de parole un peu minimaliste qu'on trouve déjà chez saint Paul, qui est un très grand théologien mystique. Mais de temps en temps, bon, il y a des paroles qui sont un petit peu bas de gamme, du genre, voilà, il vaut mieux se marier que brûler, etc. Bon, donc ça, c'est une espèce de conception du mariage comme moindre mal. Ça a eu beaucoup de fortune. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça ne répond pas vraiment à la question de fond qui est en quoi le mariage peut-il être une voie de sainteté. C'est une façon plus intéressante de poser la question. Donc dire le mariage est un moindre mal parce qu'il vaut mieux se marier que brûler. Bon, je veux bien qu'on dise ça si vous voulez, dire par ailleurs ou sur un autre plan. En quoi est-ce que le mariage peut être voie de sanctification et de salut? En quoi est-ce que c'est une voie spirituelle, une voie charismatique, comme la voie monastique elle-même? Moi, je trouve ça plus intéressant. J'ai l'impression que ça apporte plus, quand même, et que ça apporte plus à l'homme d'aujourd'hui. Parce que finalement, la conception du mariage comme moindre mal, c'est une conception libertine. C'est considérer que la sexualité est quelque chose de tellement méprisable, encombrant, que nous ne savons pas où fourrer notre sexe, en quelque sorte, si vous permettez de dire ça, c'est tellement, oui, encombrant, cette chose-là, encore que le sexe de la femme est moins encombrant que celui des hommes, enfin tout de même, on ne sait pas très bien quoi en faire, alors du coup, bon, faut donner une satisfaction à ça, et puis, mais ça, c'est déjà une conception libertine, c'est au fond une conception païenne. Et d'ailleurs, cette conception qui est païenne, que je ne trouve pas très intéressante, il y a en fait une conception d'une espèce d'autonomie du corps par rapport à la vie spirituelle de l'être humain. Comme si dans le baptême, on n'avait baptisé qu'une partie de l'être humain, par exemple, je ne sais pas quoi, les facultés intellectuelles, que la tête, par exemple, ou que le cœur. Enfin, comme si le baptême n'avait pas empêché l'être humain d'être complètement morcelé. Enfin, on aurait un être humain morcelé, une espèce d'hybride, un mélange difficile à vivre avec la vie corporelle et la vie considérée, appelée spirituelle. Et puis le mot spirituel n'est jamais très clair en français. Enfin, quelque chose de fond invivable à la longue.
On se rappelle de toute façon que le rite ancien du baptême, qui est toujours préservé dans l'Église orthodoxe, c'est le rite de l'immersion, donc il veut montrer aussi qu'on baptise l'être humain tout entier, corps et âme.
Voilà, donc c'est ça, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a quand même une question d'anthropologie derrière ça. Bon, les orthodoxes ne sont pas meilleurs que les autres, il y a des déviations chez nous, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire pour que nous, les prêtres en particulier, soyons à la hauteur de la situation, que nous soyons formés pas seulement de manière didactique, mais de manière vraiment spirituelle. Je pense que beaucoup de difficultés qui surgissent viennent de notre incapacité, à nous, les pasteurs, de vraiment être à la hauteur des questions qui sont posées. Enfin bon, toujours est-il qu'il y a quand même dans la tradition liturgique, c'est pour ça qu'il faut la garder, et qu'il ne faut absolument pas toucher à la tradition liturgique, parce qu'elle est porteuse de toute la sagesse du Christ et des saints apôtres. Il y a une anthropologie unitaire, qui est une anthropologie ancienne quand même, au sens où on la trouve chez Saint-Irénée. Saint-Irénée dit nettement que la grâce du Saint-Esprit pénètre l'ensemble du composé humain, que le corps lui-même est sanctifié, etc. Donc cette anthropologie unitaire, qui a quand même toujours existé, même si elle a été en rivalité quelquefois avec l'anthropologie dualiste, qui a existé aussi, un peu je pense une rivalité entre ces deux conceptions-là, mais l'anthropologie unitaire, elle triomphe dans notre Église orthodoxe, en particulier grâce au mouvement et le mouvement hésicaste, qui est le mouvement qui a marqué le plus au fond l'Église orthodoxe depuis le XIVe siècle, transmet cette conception-là jusqu'à nos jours, cette conception unitaire, globale de l'être humain. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que l'être humain tout entier, par la grâce du Saint-Esprit, est appelé au salut. Ça veut dire que donc la vie corporelle, la vie sexuelle, et donc on arrive à la question du mariage, a un enjeu de connaissance de Dieu et un enjeu de participation au salut. Tout l'être humain est appelé au salut, pas seulement une partie de l'être humain. Qu'est-ce qu'on ferait du corps? Alors le corps serait jeté, mis à la poubelle quelque part, ou incinéré. C'est pour ça que les orthodoxes ne pratiquent pas l'incinération. C'est parce que le corps est en grande considération chez nous. On ne brûle pas, on ne jette pas le corps. Vous voyez, le corps n'est pas méprisable. Le corps n'est pas une prison dont il faut se libérer. Le corps n'est pas une espèce de boîte impersonnelle. Le corps est l'icône de la personne. L'icône de la personne, vous voyez, c'est très très important. Par conséquent, l'ensemble du composé humain est appelé à ça. Alors, après ça, il y a deux voies. La tradition chrétienne des saints pères est qu'il y a deux voies. Il y a la voie conjugale et il y a la voie monastique. Et que ces deux voies, la voie conjugale et la voie monastique, sont des voies de salut, des voies de connaissance, des voies de sanctification. Il y a des saints mariés, il y a des martyrs qui ont été des personnes mariées, qui ont donné un témoignage conjoint, justement, et que jusqu'à nos jours, le sacrement, le grand, ce qu'on appelle le sacrement du couronnement dans l'Église orthodoxe, appelle le couple marié à donner un témoignage de foi, comme les saints martyrs, appelle le couple à avoir une action missionnaire comme les saints apôtres, on dit aux saints martyrs, gloire des apôtres, et le saint mariage, en faisant allusion au prophète Isaïe et à l'incarnation du Christ, appelle les époux à vivre vraiment l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire vivre toutes les conséquences de l'incarnation du Verbe dans leur vie. Alors, quelles sont les conséquences de l'incarnation? Ben, c'est justement la sanctification de l'être humain. La première chose, l'œuvre du Christ, c'est quand même d'abord la sanctification de l'être humain dans sa totalité. Il a sanctifié en la mère de Dieu, il a sanctifié bien sûr son indigence, bien sûr ses sentiments, bien sûr son âme, etc. Mais il a sanctifié son corps en acceptant de recevoir d'elle la chair et le sang. Donc ça, c'est un événement qui est tout à fait extraordinaire et dont les conséquences doivent être quand même tirées. On ne peut plus traiter le corps comme un objet ou simplement comme une chose encombrante à qui il faut donner satisfaction de temps en temps pour être tranquille après l'incarnation. Moi, je pense qu'il y a quand même des propos tenus par des chrétiens qui sont très respectables, en tout cas meilleurs que moi, je veux dire. Oui, je me sens un peu petit pour dire ces choses-là, j'ai un petit peu honte, mais tout de même, je dois avoir le courage de dire que certains propos tenus par les chrétiens honorables par ailleurs sont des propos, anachroniques, enfin, qui sont tout à fait dépassés par le fait de l'incarnation, ce qu'on appelle l'union hypostatique dans notre théologie orthodoxe, le fait que l'être humain dans sa totalité invisible et visible, corps et âme, est sanctifié par l'incarnation du Verbe. Donc on ne peut plus traiter l'être humain après l'incarnation comme avant. Il y a un avant et un après de l'incarnation, il y a un avant et un après de la résurrection, je suis désolé, il y a un avant et un après de la Pentecôte, et pour nous, notre vie personnel, il y a un avant et un après le baptême. Et ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Donc à partir du baptême, la vie corporelle devient une voie. Et la voie monastique est une sanctification de la sexualité, mais bien sûr, la voie monastique n'est pas une amputation de la sexualité, elle est une consécration et une sanctification de la sexualité, et le mariage est aussi une sanctification de la sexualité. Alors, je voudrais dire ça, comme c'est assez important. Notre tradition orthodoxe, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a un avant et après le mariage, justement, de même qu'il y a un avant et un après le baptême, la sexualité, dans le mariage, elle est reçue de Dieu. C'est-à-dire qu'on retrouve, si vous voulez, ce temps, ce moment où Dieu donna à l'être humain la sexualité. Ben, vous voyez, c'est Dieu qui lui donna, quand même. C'est Dieu qui dit croissez et multipliez. C'est Dieu qui donna à l'être humain la possibilité de la procréation, de la relation hétérosexuelle. Croissez et multipliez. C'est quand même, c'est de Dieu. Donc le mariage se situe dans ce illo tempore là, dans ce enkero ekino, dans ce vrem achea. Donc il se situe dans ce moment là, le moment où Dieu te donne, à toi Adam et Ève, vous donne la sexualité. Vous la recevez de Dieu. Donc la différence elle est là. C'est dans une sexualité sauvage, non baptisée, non chrétienne, non mariée, je suis désolé, c'est une sexualité que je prends. Je prends la sexualité parce que je prends du plaisir, j'arrête pas de prendre. L'être humain a une capacité de préhensibilité vraiment extraordinaire, on n'arrête pas de prendre. Et on prend et on jette d'ailleurs, c'est take and throw. C'est quand même beaucoup ce qu'on voit autour de nous. Je ne suis pas sûr que ça rende les gens tellement heureux. En tout cas, ça ne les rend pas plus humains. Et en tout cas, ça ne contribue pas à prendre, et même pour garder. Mais le fait de prendre, c'est tout à fait autre chose que recevoir. Dans les paroles eucharistiques, le Christ dit « Lavete, fagete, tuto estito emamu, ito somamu. » Lavete. Or, en grec, le verbe « lambano » ne veut pas dire « prendre ». On traduit toujours par « prenez et mangez ». C'est bien. Mais en fait, le grec ne dit pas ça, il dit « recevez ». Lambano, ça veut dire « recevoir », c'est ouvrir ses mains pour recevoir. Donc, pour revenir à la sexualité et au mariage, le mariage est justement la conception eucharistique dans laquelle je reçois la sexualité et je reçois l'autre comme la couronne de ma vie et dans lequel l'autre me reçoit comme la couronne de sa vie, chacun reçoit l'autre. Et ceci implique un comportement conjugal, un comportement sexuel sain et béni, c'est-à-dire le respect d'autrui dans la relation sexuelle du couple. Autrui n'est pas une proie pour moi. Autrui n'est pas l'objet de mon plaisir. Autrui, que ce soit l'homme ou la femme, n'est pas celui par lequel je vais satisfaire mes pulsions. Autrui n'est pas le moyen de mon plaisir, vous voyez, de mon plaisir finalement solitaire. Autrui n'est jamais un objet pour la satisfaction de moi. Mais c'est l'inverse. Comment respecter cette personne à qui j'appartiens et qui m'appartient par le baptême et avec qui j'appartiens, nous appartenons tous les deux au Christ.
Père Marc-Antoine, permettez-moi de vous poser les questions d'une façon peut-être un peu naïve, mais comme on les entend souvent de la part des jeunes, pourquoi quelqu'un qui vit en concubinage ne peut pas recevoir la communion à l'église? Qu'est-ce que le sacrement de mariage change en ce qui concerne les relations sexuelles entre l'homme et la femme? Pourquoi l'avant-mariage est différent de l'après-mariage? Voilà des choses simples, dites simplement, mais qui préoccupent beaucoup les jeunes dans l'Église.
La question de la relation entre le concubinage et l'Eucharistie, je pense que c'est une chose qui est assez simple. C'est que l'Eucharistie, si vous voulez, c'est le sceau, S-C-E-A-U, c'est ce qui scelle aussi toute la vie. Si des amis que nous avons vivent en concubinage, bon, c'est une chose. C'est vrai que j'ai des très bons exemples, des amis qui vivent ensemble et qui, de manière vraiment assez exemplaire. Franchement, je tiens à le dire, je tiens à rendre hommage, si vous voulez, à des personnes qui donnent un exemple, même à des chrétiens, dans leur façon de vivre. Mais si ce couple, par exemple, de concubins vivant de manière très correcte, participe à l'Eucharistie, c'est irréversible. C'est-à-dire que la participation à l'Eucharistie consacre à jamais leur vie. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas qu'il y ait de mensonges, il ne faut pas que tu croies que tu vas communier au corps et au sang du Christ et que la vie que tu mènes avec une telle ou un tel reste une vie optionnelle. C'est ça qui est assez important. Oui, moi, je pense que la confusion vient de là. C'est un petit peu comme les personnes qu'on reçoit à la communion dans l'Église sans qu'elles aient confessé la foi orthodoxe ou pas baptisées, par exemple. Si, imaginez qu'un non-baptisé communier au corps et au sang du Christ, parce que, ben, je sais pas, il y avait beaucoup de monde ce jour-là, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on doit le considérer comme un baptisé, c'est terminé, vous voyez. Et à ce moment-là, lui, il le reprendra après, lui dit, écoute, tu as communié au corps et au sang du Christ, tu n'étais pas baptisé, mais te voilà maintenant membre du corps et du Christ. Et nous allons dire une prière pour dans toute la communauté, pour que ce soit bien clair, pour toi et pour tous, que tu es chrétien.
Il faudra le baptiser sur le coup.
Oui. On le baptise sur le coup. Mais là, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la participation au corps et au sang du Christ, ça contient absolument tout. Donc, des concubins qui communient sont des concubins mariés, c'est tout. Mais s'ils continuent à croire qu'ils ne sont pas mariés, là, illusion, vous voyez.
Donc, il faudra qu'on le marie sous le coup.
Oui, c'est une question d'économie. Il faut demander à l'évêque quoi faire. Est-ce que l'évêque va dire, écoutez, est-ce que c'est clair pour eux? Je ne sais pas. Il faut trouver un mode pour sanctionner ce fait et être sûr que pour eux, il est clair que parce qu'ils ont communié au corps et au sang du Christ, ils sont mariés. Parce que, vous savez, il y a eu quand même des pratiques différentes dans le domaine pastoral. Il y a eu des époques où le mariage comme sacrement était moins développé, où l'Esprit Saint n'avait pas jugé bon de fournir tous les développements admirables dont nous jouissons aujourd'hui. Donc, des choses qui étaient plus simples. Je crois qu'il y a eu des époques, je ne connais pas ça parfaitement, mais des époques où les personnes, si vous voulez, avaient bénéficié d'un contrat civil, romain par exemple, et venaient à l'église et participaient à l'Eucharistie dominicale en présence de l'évêque, et bon, mais c'était terminé, ils étaient mariés, vous voyez. Mais ben, c'était clair pour eux qu'à partir du moment où ils avaient communié au corps et au sang du Christ, ils étaient mariés pour l'éternité.
Là, je pense qu'il faut quand même faire une précision, parce qu'il peut y avoir des gens, et surtout des filles, des femmes, qui peuvent s'imaginer que, voilà, aller avec leur concubin prendre la communion à l'église, ben, ils sont mariés, ils sont ok, ils sont en règle du point de vue de l'Église, mais ce n'est pas le cas parce que, à la limite, on peut dire que toutes les personnes qui communient ensemble, à la fin de la liturgie, ils sont mariés entre eux, donc ce qui est tout complètement faux. Et parfois, on amène justement cet argument en disant qu'au début de l'Église, il n'y avait pas le sacrement de mariage comme on le connaît aujourd'hui, ce qui est vrai. Mais depuis le tout début de l'Église, il y avait une sorte de sacrement de mariage. On retrouve déjà chez saint Ignace d'Antioche, l'évêque d'Antioche de la période juste après les apôtres. C'est une père apostolique, saint Ignace, et dans une de ses lettres, avant le moment de son martyr, il précise très clairement que le mariage doit se faire avec la bénédiction de l'évêque. Donc on peut penser qu'il y avait déjà une prière, une nuce, il y avait déjà un début du sacrement du mariage qui était présent dès le début de l'Église.
Mais je dis simplement pour déblayer un peu le terrain, hein, qui rapporte forcément, à un moment, il y a une sanction effectivement de l'évêque qui atteste devant Dieu et devant les hommes de ce qui a eu lieu. Donc, mais cette attestation de l'évêque, si vous voulez, est absolument nécessaire. C'est qu'on ne peut pas laisser l'être humain dans simplement, comme je disais tout à l'heure, la libre disposition de soi et dire, ben voilà, on a communié, mais après ça, on continue à vivre autrement. Après ça, on va changer éventuellement de partenaire sexuel, comme on dit, etc. C'est une façon de présenter les choses, si vous voulez, si on veut bon, parler un peu à tout le monde. Maintenant, par ailleurs, le sacrement de mariage apporte quelque chose, évidemment. Le mariage est le sacrement de l'Église, c'est-à-dire, de même que le pain et le vin sont présentés, offerts à Dieu, et sanctifiés, déifiés, crucifiés par la grâce du Saint-Esprit, et redistribuer en communion eucharistique aux fidèles, de même l'amour conjugal bénéficie d'une telle consécration. Ça, c'est typique de la théologie orthodoxe du mariage aussi, qui n'est pas le caractère contractuel ou juridique, qui suppose le contrat avant, par exemple, il y a les fiançailles qui précèdent, et il doit y avoir un engagement à caractère contractuel, mais le mariage lui-même n'est pas de cet ordre. Le mariage lui-même est du caractère épiclétique. De même qu'on apporte le pain et le vin sur l'autel, qui est que ce pain et vin est présenté par l'évêque, nous sont délégués, présentés à Dieu et soumis à la venue, à la descente et au feu de l'Esprit-Saint pour être transformés en corps et sang du Christ. De même, les époux apportent l'offrande de leur amour humain, qui est tout à fait donc digne et honorable déjà, mais c'est une belle offrande. Ils apportent une offrande, comme on apporte un pain de bonne qualité, un vin de bonne qualité, les époux apportent un amour de bonne qualité, personne ne nie ça. Mais ils l'offrent, l'évêque aussi le présente à Dieu, le met sous le feu de l'Esprit, par l'épiclèse du Saint-Esprit, et le leur rend. Voyez, donc c'est tout à fait autre chose. La sexualité reçue par Adam et Ève au paradis était revenue de Dieu, c'est vrai. Mais la sexualité que l'être humain reçoit dans l'Église, c'est beaucoup plus que ce que Adam a reçu au paradis. C'est une sexualité et une vie corporelle et une vie conjugale christifiée, déifiée, sanctifiée, qui est intégrée justement à toutes les conséquences de l'union hypostatique, c'est-à-dire de l'incarnation. C'est tout à fait un autre monde. Un autre monde. Donc il y a effectivement un avant et un après, parce qu'il y a avant la grâce du Saint-Esprit et après la grâce du Saint-Esprit, tout simplement. Bien sûr que le Saint-Esprit agit avant pour te faire rencontrer un tel ou une telle. C'est grâce à Dieu que tu l'as rencontré, bien sûr. C'est aussi grâce au Saint-Esprit que tu t'approches de l'Église. Mais entre la grâce du Saint-Esprit qui t'amène jusqu'au baptême et la plénitude de la grâce du Saint-Esprit que tu reçois dans le baptême, il y a quand même un monde. Et entre la grâce du Saint-Esprit qui t'amène au Saint-Mariage et la plénitude du Saint-Esprit que tu reçois dans le sacrement du mariage, il y a aussi également un monde. Or, qu'est-ce que reçoivent les époux dans la grâce du Saint-Mariage, dans le couronnement, dans l'office du couronnement? C'est pas seulement la grâce de s'aimer qui s'aime, mais c'est la grâce de s'aimer comme Dieu aime. Ce qui est un petit peu éventuellement autre chose, c'est-à-dire Dieu aime de manière absolument chaste, désintéressée, Dieu aime sans convoitise. C'est pour ça qu'on parle de chasteté conjugale, c'est-à-dire que cette possibilité pour l'être humain de faire l'expérience de l'amour divin comme un amour sans convoitise. Ça c'est quand même le projet. Ceci est de caractère charismatique, c'est pas de caractère moral, de caractère idéologique. Seul l'être humain, le recevant de Dieu, peut expérimenter ce charisme de la chasteté, soit dans la voie monastique, soit dans la voie conjugale. Donc on reçoit ça. Et on reçoit également la grâce de la paternité ou de la maternité spirituelle, ce qu'on ne dit pas suffisamment. C'est-à-dire, élever des enfants, c'est une chose vraiment très difficile. C'est une croix d'être parent. Or, nous ne pouvons pas être des parents, des pères et des mères, simplement en ayant lu tous les livres des psychologues, qui sont très bons, je pourrais en citer, que j'estime beaucoup, simplement en étant cultivé, en étant de bon sens. L'éducation des enfants, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. C'est absolument paradoxal, absolument événementiel. C'est impossible, en fait. Alors on se débrouille à peu près, bon, mais c'est une impossibilité. Et ça ne devient une possibilité, comme dit l'apôtre Pierre, que si ça vient de Dieu. Or Dieu donne dans le mariage la grâce de la paternité et de la maternité spirituelle. La grâce d'être vraiment des pères et des mères pour les enfants qui eux-mêmes seront des saints, engendrés des saints. Des papas et des mamans vivant saintement et vivant sur le chemin de la sainteté, la sanctification de leur vie, sanctifiant leur vie dans le mariage, des papas et des mamans de cet ordre-là, ayant engendré des enfants, ils vont les engendrer deuxièmement sur le plan spirituel par la grâce de la paternité et maternité spirituelle qu'ils ont reçue dans le Saint-Mariage. Et troisièmement, ça c'est assez important aussi, dans le Saint-Mariage, je pense que l'être humain reçoit essentiellement une grâce de caractère sacerdotal, qui au fond il est question d'une ordination conjugale. Les époux font avec l'évêque ou le prêtre une procession autour du Saint-Évangile, comme on le fait pour l'ordination de l'évêque, du prêtre ou du diacre, et comme on le fait d'ailleurs pour le baptême. Le baptême est une ordination baptismale, une ordination au sacerdoce royal, ça c'est quand même assez clair, je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas plus souvent, et le mariage est une ordination au sacerdoce conjugal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que brusquement, voilà des personnes qui, avant le mariage, étaient monsieur tout le monde, des gens très respectables et très dignes et souvent exemplaires, mais ils n'étaient pas membres du sacerdoce. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une fonction, un ministère. Il n'y a pas de ministère. Un ministère ordonné, un ministère objectif de consécration de leur vie, de consécration du monde, de consécration de la culture, d'intercession pour le salut du monde. Il y a dans le mariage ce qu'il y a dans le baptême, si vous voulez, c'est les mêmes réalités, c'est-à-dire une restauration de l'être humain dans sa triple dignité paradisiaque, c'est-à-dire il est restauré comme roi. Voilà pourquoi il porte la couronne dans le mariage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roi au paradis? C'est le roi, c'est celui qui est responsable de tout devant Dieu. Il est restauré après ça dans sa fonction prophétique, c'est-à-dire qu'il est celui qui témoigne. C'est pour ça qu'il a fait allusion au martyr dans le Saint-Marie. Il est celui qui témoigne de l'amour de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la sagesse-amour, de la vérité-amour de Dieu pour sa création. Donc c'est le caractère prophétique des époux, mais dans la société, dans le quartier, vous voyez, c'est assez important. Au bureau, dans le travail, dans le métro, et c'est ça le témoignage du couple. La vie prophétique d'un couple chrétien, d'époux chrétiens, ça s'exerce dans le quotidien. Et troisièmement, l'être humain, donc, est rétabli, donc, après sa dignité royale, dignité prophétique, il est rétabli dans la dignité sacerdotale ou pontificale, qui est la dignité adamique. Et ça se voit justement par le fait que les époux apportent des offrandes, vous voyez. Ils apportent l'offrande de leur amour, c'est-à-dire la consécration. Et ils sont eux-mêmes investis d'un ministère. Donc, vous voyez, alors on dit, oui, mais bon, tu comprends, les gens qu'on voit, ils pensent pas tous à ça. Ils se marient parce qu'il faut se marier, parce qu'ils veulent des fleurs, ils veulent une belle robe, puis parce qu'on fait comme ça dans leur pays. Bon, je sais bien. Je sais bien, mais il doit y avoir dans l'Église quelques personnes qui ont la conscience des choses et qui essaient, de temps en temps, aussi souvent que possible, qui essaient de rappeler le contenu et le sens de ce qui se fait dans l'Église, le pourquoi, où est-ce que ça va, quel est l'enjeu, quel est le projet, quel est l'admirable projet que Dieu a pour nous, l'admirable joie, comme il dit lui-même. Je relisais l'évangile de Saint Jean tout à l'heure sur un banc public, et il dit ça, il dit, mais c'est très beau quand le Christ prie le Père, il dit, mais Père, moi je veux qu'ils aient la joie, qu'ils aient ma joie, et je veux qu'ils l'aient en plénitude. C'est fou de penser que le projet de Dieu pour l'être humain, c'est que l'être humain ait part à la joie plénière de Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Donc oui, on est tout à fait au-delà d'un problème de morale, de permis, d'interdit, de pur, d'impur. Ça, ce sont des choses qui sont, c'est complètement du passé, ça, vous voyez. Il faut vivre dans l'actualité, dans la modernité du christianisme, qui est l'offrande que Dieu fait de sa propre joie.
L'Association orthodoxie locale de tradition russe, OLTR, organise une table ronde sur le thème « La primauté dans l'Église orthodoxe ». Y participeront Mgr Hilarion Alfeyev, évêque de Vienne et d'Autriche, qui évoquera la primauté dans l'Église après le schisme, et Jean-François Colosimo, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe en Serge à Paris, qui parlera de la primauté dans l'Église avant le schisme de 1054. Cet événement aura lieu vendredi prochain, le 13 février, à partir de 19h30, dans la salle du musée social Cédias, 5 rue Las Cases, dans le 7e arrondissement de Paris. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra et Saint-Antoine le Grand et les chorales Saint-Jean d'Amasène et Saint-Silouan de Paris. Le réalisateur de l'émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une bonne semaine emplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM, dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.